On va commencer, Bezrat Hashem, notre troisième cours sur le chapitre 41 et nous sommes à la page 231. Nous sommes, s'il vous plaît, à la page 231. Donc ce qu'on va essayer d'expliquer dans le cours d'aujourd'hui, dans le chapitre 41, dont nous entamons maintenant le troisième cours, on explique comment dans chaque mitzvah, il y a un message. Et que très souvent, le message d'une mitzvah, c'est le fait de se rappeler qu'Akadosh Baruch Hu est présent autour de nous. Rappelez-vous le fameux exemple qu'on avait expliqué, qu'Akadosh Baruch Hu, il est présent, et il nous regarde à chacun de nous, et il nous dit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je ne suis pas tranquille sans toi, j'ai besoin de ta mitzvah. Donc évidemment, ça, c'est, quand on entend des mots comme ça, c'est un mot fort, c'est un mot qui bouleverse. Ce qu'on va expliquer dans la suite du secours, c'est comment dans chaque mitzvah est autour de ce concept. Le fait que Dieu me dit, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta mitzvah. Moi, je réalise que Dieu est grand. Et d'un autre côté, je réalise que Dieu a besoin de moi. Et j'avais dit que cette semaine, on allait donner quelques exemples. Bonsoir. On allait donner quelques exemples, notamment autour du talit et des tefillin. La semaine dernière, je vous ai parlé très brièvement du talit. On a posé une question. On a dit, quand on met le talit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait quand on met un talit? C'est quoi la mitzvah du talit? Je prends un vêtement et je m'enveloppe, Razak. Je m'enveloppe. Ça, c'est la différence entre le talit katan et le talit gadol. C'est que le talit katan, celui que j'ai sur moi, je ne me suis pas enveloppé avec. Je me suis habillé de ce talit. Alors que le talit gadol, celui qu'on a mis ce matin, quel beracha j'ai fait avant de le mettre, ou en le mettant, cher qui déchaînou, vous êtes avec nous, lit atef betitit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dis que Dieu nous a ordonné de nous envelopper dans le titit. Alors que si j'avais pas de grand talit, j'avais qu'un petit talit, comme celui-là, je ne peux pas faire la bracha de m'envelopper, parce que je ne peux pas m'envelopper avec celui-là. Je ne peux que m'habiller de ce talit. Ça, c'est la mitzvah. Bon, alors on aurait pu dire, bon, c'est une mitzvah technique, tu prends un vêtement, tu t'enveloppes avec. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi Dieu te demande de prendre un vêtement, de t'envelopper avec? Quel est le sens? Quelle est la symbolique? Alors on a donné une des explications qu'on a commencé à expliquer. On a dit que la symbolique de cette mitzvah, c'est quoi? C'est le fait de s'envelopper de la shrina, de comprendre que quand je fais une mitzvah, je m'enveloppe d'Akadosh Baruch Hu, je m'enveloppe de la Kedusha. Et ça, je dois réaliser ça. Je mets de côté les téfilines, le talit. Si vous voulez, on va arriver maintenant au talit. Oh, excusez-moi, je m'embrouille. On va arriver maintenant au téfilines. C'est quoi les téfilines? Comment on fait les téfilines? Joseph, voilà, vous avez découvert, ça fait quelques mois les téfilines. Alors expliquez-nous. C'est quoi les téfilin? C'est un objet high-tech, c'est fait avec de l'or, c'est fait avec... hein? Comment on fait les téfilin? Avec quoi? Bon, déjà les lanières, c'est quoi? Les lanières, c'est quoi? C'est de la peau, d'accord. Maintenant, le boîtier, il est en quelle matière, d'après vous?
Du cuir aussi.
Du cuir? Alors, il est dur comme ça. Hein? Le boîtier.
Eh ben oui, il est en cuir aussi.
Hein? Il est en cuir. Très bien, ok.
Je pense que tout est naturel.
Ok. Alors qu'est-ce que tu demandes? Très bien, donc on va avec la pression, etc. On va faire un boîtier. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce boîtier?
Un parchemin.
Ok. Très bien. Et qu'est-ce qu'il y a? D'abord, combien de parchemins il y a?
5.
4. 4. Ça dépend entre la tête et la main.
Non.
Dans celui du bras, il y a un parchemin qui a 4 parachas. Alors que dans celui de la tête, il y a 4 parachas en 4 parchemins différents. Mais c'est les mêmes. C'est pour ça que dans celui de la tête, il y a 4 cavités. Dans celui du bras, il y a une seule cavité. Mais en vérité, c'est les mêmes parachutes, c'est la même chose. D'accord? Bon. Alors qu'est-ce qui est écrit dans ces 4 parachutes? C'est-à-dire, on a sélectionné 4 parties de la Torah.
Et le chemin Israël, c'est sûr.
C'est intéressant de voir quelle partie on a sélectionné. Parce qu'apparemment, c'est un message tellement important que la Torah veut que je me l'attache sur moi-même. Donc c'est une question que je dois me poser. Au-delà de l'aspect technique de la mitzvah, je prends un morceau de cuir, je le mets sur moi parce que Dieu l'a demandé. C'est très bien, j'ai fait la mitzvah. Mais après, il faut aller au-delà. Je fais la mitzvah, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? À quoi ça sert? Qu'est-ce que je fais? Donc je suis en train d'entourer autour de moi un boîtier avec des parchemins. Qu'est-ce qui est écrit dans ces parchemins? Dans ces parchemins, il y a écrit 4 parachas. Il y a d'abord, bien sûr, le schéma, c'est la classique, le schéma vaïen chamois. Bon, d'accord, c'est la classique. Mais on va voir tout de suite. Il y a aussi 2 autres parties, parce qu'il nous faut 4. Shema, Ve'ayim, Shamoa. Shema, c'est le fait que j'accepte la souveraineté d'Hachem. Ensuite, Ve'ayim, Shamoa, Tishmeu, c'est on dit que si vous allez écouter les mitzvot, alors Dieu va nous donner tout ce qu'on a besoin et toutes les récompenses qu'on a besoin. Mais après, il y a 2 autres parachutes. Alors, on y va. On va prendre la page 231. Je prends le haut de la page. 231, ouais, c'est ce que je vous dis, non? Ouais, c'est ça. Oh, betiti tout filin elou. Je vais réaliser que lorsque je... Alors. Ah, c'est high-tech, hein. Pas de problème, on continue. Alors, on va prendre les mots. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais réfléchir au fait que lorsque je fais une mitzvah, par exemple, je vais mettre le titit, donc c'est le talit, et les tefilin, ou bikriato ou bilvichato, en lisant le texte autour de cette mitzvah, ou en mettant, m'enveloppant de ce vêtement, ou de ces tefilin, que je m'enveloppe des tefilin, ou mamshir oroit barer alav, dehainu al chelek elokam imal, shebetor gufo likalel libatel beoroit barer. Alors, ce que je vais vous dire pour l'instant, ça va vous avoir l'air du chinois. Je vous préviens. Soyez pas étonnés. Moraz Zaken te dit, tu dois réaliser que lorsque tu fais une mitzvah, tu amènes de la lumière sur toi. Et cette lumière fait que tu montes vers Hachem. Bon, concrètement, comment ça marche? Et comment ça fonctionne? Et comment je retrouve ça dans le télé et dans les films? Très bien. Alors on va prendre point par point. On va prendre par exemple les téfilines. Où on met les téfilines?
Sur le bras et la tête.
Sur le bras et sur la tête. Pourquoi sur le bras et sur la tête? Pourquoi on ne met pas par exemple sur la tête et sur le pied, sur la tête ou sur les deux bras? Tiens, je mets un téfiline là, ça sera pas mal. Hein.
Non, mais il y a une proximité du cœur.
Ah, d'accord. Donc ça veut dire quoi? Attends, ok, d'accord, très bien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah te demande de prendre un parchemin, d'accord, dans lequel il y a écrit. J'étais mes sous-doigts après, rappelle-moi.
Oui.
Donc, la Torah va nous demander de prendre un parchemin. Bon, un parchemin, dans lequel il y a écrit des textes. Et ce parchemin, je vais le mettre où? Où on le met, monsieur, à quoi ce parchemin?
À la partie la plus haute.
Alors, je le mets au niveau de la tête et au niveau du bras gauche.
Oui.
Je commence par le bras gauche.
Bon, je commence le bras gauche, vous savez pourquoi? En vérité, le tefillin le plus important, c'est lequel? Celui de la tête. Il est plus kadosh.
Ouais.
Seulement, il est écrit, Ukshartam leot aliadecha, vaul tetafot benenecha. C'est la Torah qui a donné l'ordre. Il a dit, tu le mettras sur ton bras et après tu le mettras sur la tête. Ça veut dire que celui de la tête, il est tellement important qu'on te dit, avant de mettre celui de la tête, d'abord prépare avec celui du bras.
Il le pose comme une couronne.
Pour ça, la Gemara pose la question, elle dit, qu'est-ce qui se passe avec celui qui n'a pas de bras? Dieu préserve. Où il met les tefillin? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il met sur la tête. Ici, il a pas de tête.
Il est dispensé de faire les
il a déjà fait.
Non, mais sérieusement.
Donc, si quelqu'un, pardon, qui a perdu la raison.
Voilà, il est exempté des mitzvot.
D'accord.
Il est exempté. Ok. Donc,
il n'est pas responsable.
On reprend l'exemple des tefillin. Qu'est-ce que la Torah me demande? La Torah me demande de prendre un parchemin, ou quatre parchemins, de les attacher autour de mes bras, autour de ma tête. Quel bras? Le bras gauche. Contrairement à la règle de la Torah, qui dit qu'à un moment, tout ce qu'on fait, on fait avec la main droite. Là, c'est une des rares exceptions dans la Torah, dans lesquelles la Torah te dit que tu le feras avec la main gauche. Vous savez que chaque fois, la Gemara dit ça, elle dit que chaque fois dans la Torah, il y a écrit le mot, c'est avec moi? Chaque fois que dans la Torah, il y a écrit le mot main, ou pied, et qu'on dit pas de quelle main on parle, par défaut c'est quelle main?
La droite.
La droite, tout le temps.
Côté cœur.
Tout le temps, non, pas du tout. C'est tout le temps la main droite. Et pour un gaucher, sa main gauche est considérée sa droite, sa main forte. Donc c'est pas un problème.
Donc on met sur la
plus tout le temps. Tout le temps. J'ai un livre, si vous voulez, avec tous les détails pour les lois des personnes qui sont dégauchées. Mais ça veut dire que dans la Torah, chaque fois qu'il y a écrit le terme main, il y a plein de cas où il y a écrit main. Enfin, il prendra sa main, il prendra son pied, il prendra son... Chaque fois que la Torah te parle d'un membre et qu'elle ne te précise pas de quel membre il s'agit, c'est juste du droit. Et là, en ce qui concerne les téfilines, la Torah te demande de prendre quel bras? Le bras gauche. Qu'est-ce qu'on a avec le bras gauche?
C'est le plus faible.
Alors, il y a plusieurs symboles. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui nous intéresse dans le bras gauche? C'est le positionnement. Entre autres. D'accord? C'est que le bras gauche est positionné à côté du cœur.
En face du cœur.
D'accord? Et là, qu'est-ce qui nous intéresse dans le téfiline de la tête? C'est qu'il est à côté du moar, il est à côté du cerveau. Ça veut dire que le symbole est très fort.
Le cerveau, il est marqué.
D'accord? Au passage, vous savez que si vous regardez le texte, il est écrit, Va'ayu le totafot ben enecha, ils seront en totafot entre tes yeux. D'accord. Mais où vous mettez votre tefilin? Vous ne les mettez pas là, parce qu'on a une tradition qui dit que c'est pas là qu'on met les tefilin. D'ailleurs, il y avait d'autres qui respectaient que la Torah écrite et pas la Torah orale, qui mettaient les tefilin devant un mur, sur un mur comme ça, et priaient devant. Ils disent, voilà, c'est entre mes yeux. Entre mes yeux. Mais nous, on sait par tradition. Bon, ils prennent le texte. Mais nous, on sait par tradition orale que ça veut dire quoi, entre tes yeux? C'est pas entre tes yeux ici. C'est au niveau entre tes yeux, mais ça doit être au niveau de ton cerveau. C'est-à-dire, vous voyez, ça veut dire que même la Torah dit ben enecha, vayu le totafot, ukshartam le hot, tu les attacheras les hot en signe aliadecha sur ta main. Très bien. Vayu le totafot, ils seront en totafot, ça veut dire en quatre cavités, ben enecha entre tes yeux. C'est pas qu'on prend les tefilines, on les attache comme ça. Non. On va pas faire un nez de clown. On va les mettre entre les yeux, c'est ici, alors tu gardes ce positionnement, mais tu montes. Tu le mets là. Quand même, vous voyez les deux symboles qu'on a pris, c'est quoi? On a pris le symbole du cœur et le symbole du cerveau. Et ça, ça représente les deux mondes qui composent notre personne. Si on devait se définir, chacun de nous, si je devais me définir, comment je me définis? Obligatoirement, quand je cherche à me définir, je vais toucher à deux pôles. Je vais toucher à mon cœur, c'est un symbole. Je vais toucher à mon cœur et je vais toucher à mon cerveau. Ça veut dire que je vais toucher à la raison et je vais toucher à mes sentiments. Oui. Et chacun de nous est composé de ces deux. Alors, il y en a qui ont plus de raison que de sentiments, d'autres qui ont plus de sentiments que... Alors, il y en a qui essayent d'éteindre leurs sentiments, il y en a qui essayent d'éteindre leur cerveau. Après, ça, c'est des détails, c'est des dosages. Mais chaque personne qui naît dans ce monde, il a obligatoirement ces deux choses-là. Ça veut dire, quand il se définit, il a un cœur et un cerveau. Le cœur, c'est le symbole des sentiments, et le cerveau, c'est le symbole de la réflexion. Et c'est deux mondes complètement différents. Le monde du cerveau, je termine le raisonnement de seconde. Le monde du cerveau est un monde qui est froid, est un monde qui est réfléchi, est un monde qui est calculé. Alors que le monde des sentiments, c'est un monde qui n'est pas réfléchi. Un monde qui n'est pas calculé. Alors la question qu'on pourrait se poser, qu'un juif pourrait se poser, il se dit, quand je sers à Kadosh Baruch Hu, comment je sers Dieu? Vous savez qu'il y a des religions dans lesquelles on dit aux gens, vous devez éteindre vos sentiments. Vous devez travailler, vous devez servir, enfin Dieu entre guillemets, la religion quoi, que avec votre tête. Il y a beaucoup de religions comme ça, beaucoup de sectes dans lesquelles on dit aux gens, on habitue aux gens à éteindre leurs sentiments. On dit vous ne devez avoir plus aucun sentiment. Vous devez utiliser exclusivement votre tête. Bon. Il y a d'autres religions, ça on les connaît, c'est plus proche de nous, dans lesquelles on dit aux gens vous éteignez la tête. Il n'y a plus de tête, on ne réfléchit pas. Vous faites ce qu'on vous dit. Allah Akbar, Allah Akbar. D'accord. Vous éteignez la tête, mais qu'est-ce que vous gardez? Vous gardez les sentiments. Pourquoi tout le monde est obligé à être confronté à ce problème? Parce qu'on a un vrai problème. Le monde de la raison et le monde des sentiments, ce sont deux mondes qui s'affrontent constamment, depuis notre plus jeune âge. Ça veut dire, prenez même un enfant par exemple, il veut faire une bêtise, il se retient. Pourquoi il se retient? Parce que sa raison l'a retenu. Et pourquoi il veut faire la bêtise? Parce que ses sentiments le poussent vers là-bas. Après cet enfant, il grandit, etc., etc. Hop, il veut faire quelque chose, hop, il se retient. C'est tout le temps ça, c'est tout le temps le conflit entre les sentiments qui te poussent quelque part et la raison qui est censée te cadrer. Alors, voilà le chidouche des téfilines. Le chidouche des téfilines, c'est qu'on te dit la chose suivante. On te dit, ne crois pas que dans le judaïsme, on sert à Kadosh Baruch Hu qu'avec la tête. Comme la Torah, c'est la chorma, c'est l'intelligence, c'est l'intellect. Donc tu dis, bon, Dieu, il veut qu'on éteint nos sentiments, qu'on n'a plus de sentiments. Dis non, pas du tout. C'est faux. Ukshartam leot al yadecha. D'abord, tu mets les téfilines sur ton bras. Pour te rappeler, Kadosh Baruch Hu, il veut pas que tu éteignes tes sentiments. Il veut que même les sentiments, tu les utilises pour lui. Et après, une fois que tu as compris ça, tu vas passer vers Ayul tout à fait ben enecha, tu vas passer entre tes yeux, tu vas passer à ton cerveau. Ça veut dire que même dans ton intellect, tu vas le donner à Kadosh Baruch Hu. Et là, j'arrive à un point très important. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont être religieux seulement sentimentalement. C'est un peu cru ce que je veux dire, mais c'est la vérité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui vont faire des grandes écoles. Ils vont faire l'école tout court, après ils vont faire des grandes écoles. Et dans lesquelles, on va leur apprendre à réfléchir. Mais pas forcément au travers de la Torah, parce qu'ils n'ont pas été réfléchis au travers de la Torah. Maintenant, c'est peut-être des gens qui font leur Shabbat. Ils font le Shabbat, ils font le Shabbat, ils font leur fête, etc. Mais quand tu lui dis, définis-moi ta relation avec le judaïsme, il va dire, bon, ma relation avec le judaïsme, voilà, je fais mon Shabbat, je mange ci, je mange ça, je vais là, etc. Bon, ça c'est le cœur, ça, c'est les pulsions. Mais je dis, mais intellectuellement, est-ce que la Torah t'a attrapé? J'en connais beaucoup de gens comme ça, que justement, on travaille sur ça. Il dit, non, intellectuellement, ça m'intéresse pas. D'accord? Non, mais ça veut dire que c'est pas qu'il sait pas, c'est qu'un, justement, donc là, c'est un problème.
Mais on sait pas.
Ce que je dis, c'est que c'est un problème. Parce que tu vois bien que les téfilines, on te dit dans les téfilines, il y a le cœur et l'intellect. Pour te dire, il faut les deux. Un judaïsme équilibré, c'est un judaïsme dans lequel il y a une partie sentimentale, effectivement, qui est très importante. Parce qu'il faut bien l'amour et la crainte de Dieu, etc. Donc il faut développer des sentiments. Mais il y a un aspect intellectuel. Et ça, c'est incontournable. Et ça, c'est le premier message des téphilines. Déjà, on a un message, là. On te dit, toi, tu crois que tu mets juste tes boîtiers et des lanières autour de ton bras. Il y a un message. Le message, c'est que quand tu mets les téphilines, tu comprends et tu réalises que tu dois soumettre ton cœur et ton esprit à Kadosh. Et d'ailleurs, c'est très important, pourquoi je vous précise ça longuement, bien qu'il n'en parle pas longuement ici, parce que ce que je vous dis est une halakha dans le Shulchan Aruch. Vous savez, le Shulchan Aruch nous donne très rarement des kavanotes. Il n'y a pas de kavanotes. Shulchan Aruch, on te dit ce que tu dois faire. Comme un texte de loi. Vous ouvrez un code civil. D'accord? Est-ce qu'on va commencer à, ou un code pénal? Code civil ou code pénal? Est-ce qu'on va commencer à t'expliquer le pourquoi du comment? Il n'y a pas, on te dit, tu fais comme si. Ça, c'est interdit. Ça, c'est autorisé, c'est la loi. Point barre. Vous ouvrez un Shulchan Aruch, ou même un Kitsur Shulchan Aruch. Un résumé. Est-ce que vous avez l'habitude de voir des raisons? Il n'y a pas de raisons. Les raisons, tu vas les chercher, tu vas chercher dans le Talmud. Mais il y a quelques mitzvot dans lesquels le Shulchan Aruch te donne la kavana associée. Pas beaucoup, 3-4 mitzvot. Et parmi ces 3-4, il y a les tefilines. Que le Shulchan Aruch te dit, avant de mettre les tefilines, il faut que tu penses que le but des tefilines, c'est de soumettre ton cœur et ton esprit à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas un commandement comme ça sur le Shabbat. Il n'y a pas dans le Shabbat, le Shulchan Aruch ne te dit pas sur le Shabbat, tu auras la kavana, que 6 jours tu travailles, et 7 jours, et le 7e jour, tu vas le donner à Dieu.
Ça veut dire qu'il y a 3 mitzvot qui sont associés à la kavana?
Il y a 3 mitzvot dans lesquels la kavana est indispensable, oui. Il y a plusieurs mitzvot. Il y a aussi la Amida. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans les téphilines, la kavana, très importante. D'accord? David, quand tu mets les téphilines le matin, oui. À quoi tu penses?
Je pense... Je suis couronné tous les matins. C'est pour ça que je me lève pour mettre des téphilines de la terre.
Ouais, mais ça c'est intéressant, parce que c'est très très bien ce que tu dis. Tu penses à ce que Dieu te donne.
Oui.
Mais est-ce que tu penses à ce que toi tu dois donner à Dieu? Comment ça, le problème? Ah, mais il a raison.
Mais dès qu'il veut donner, c'est plus compliqué. Moi, c'est pour recevoir, ça va.
Il a raison. Parce que ça, c'est un sentiment que beaucoup de gens. Je mets les tefilines à des gens, des gens qui sont loin. Bon, je vous dis, comment vous êtes senti? Elle me dit, ah, je me suis senti enveloppé, senti bien, etc. C'est bien qu'ils se sentent bien. Mais après, vous voyez, les tefilines, le but des tefilines, c'est d'aller plus loin. C'est pas seulement de se sentir enveloppé d'eux. C'est de sentir que les tefilines me poussent à vouloir changer mon comportement, à vouloir soumettre mon cœur à Kadosh Baruch Hu et mon esprit à Kadosh Baruch Hu. Alors après, on va rester dans les mots, mais je crois que vous avez une question.
Non, mais vous avez partiellement répondu.
Ah, d'accord.
J'ai pensé que les téphilines sur la tête, c'est effectivement la pensée. Et je pensais que le bras, c'était l'action. À la fois, on agit et on...
Non, c'est pas non. C'est écrit en Shulchan Aruch, le charbed, à lève, ve'amor.
D'accord.
Soumettre le cœur et l'intellect.
D'accord.
Parce qu'en fait, une fois que vous maîtrisez vos sentiments et que vous maîtrisez votre intellect, vous maîtrisez toute votre vie. Ah oui. Si je maîtrise mes sentiments, mes pulsions, et que je maîtrise ma façon de voir les choses, qu'est-ce qui manque? Tout est là. Quelle autre chose me maîtrise?
Il y a des phénomènes extérieurs qui peuvent...
Les phénomènes extérieurs, mais je les gère, les phénomènes extérieurs.
Ah,
oui.
D'où l'expression corps et âme.
Oui.
Ça veut dire que quand tu mets les téphilines, si tu mets que les téphilines, comme tu dis, que le cuir, tout ça, c'est le corps. Bon, mais dès lors
que tu t'expliques,
bien sûr, qu'il y a ton corps et ton âme qui fait un tout.
À 100%.
Et là, tu es number one.
Exactement.
C'est vrai que le corps et âme.
Tu vas lui apporter ton esprit et ton cœur. Non, pas du tout. Pas du tout, ce qu'on a dit. Rappelle-toi le cours la semaine dernière. À Kadosh Baruch Hu te dit, j'ai besoin que tu me le donnes. David, ne dérange pas d'allumer la clim là-bas, l'interrupteur.
Mais ça fait pour...
Ok.
Ça fait penser.
Question pratique. Oui. Tu as évoqué le cas du gaucher.
Oui. Pour le cœur.
Il y a la symbolique du cœur.
Une question.
On le met sur le bras gauche.
C'est une question.
Et donc
oui, je comprends ta question. Dans ce cas-là, il n'est pas à côté du cœur.
Oui.
C'est ça. Ouais, je comprends. Une question. C'est bon?
Tu restes en suspens?
J'ai pas de réponse absolue.
D'accord.
Ok.
Et c'est au niveau du cœur.
Alors on va continuer.
Bien entendu.
Ok.
Juste pour info quand même, ouais. Le cœur, on dit qu'il est. En fait, il est. Il est au milieu.
Oui, il n'est pas exactement pile. Encore une fois, ne croyez pas que vos sentiments se trouvent dans votre cœur.
Non.
On est d'accord. Ouais, bah d'accord. C'est symbolique tout ça, évidemment. Vos sentiments, ils ne sont pas dans votre cœur. Votre cœur, c'est une pompe.
C'est
les émotions.
Les émotions,
mais il n'y a pas d'émotion dans le cœur. C'est symbolique. D'accord, parce qu'en vérité, tout est dans le cerveau. Tout non, est dans, tout est dans
quand vous avez une grosse émotion, c'est le cœur qui.
Non, le cœur bat la chamade, c'est normal, c'est conséquent ça.
C'est action-réaction.
Ok. Alors, on va avancer un petit peu.
La réaction.
D'accord. Vederer Prat, je suis en bas de la page 131. Là, on va expliquer plus en détail ce qui se passe dans les téfilines. Donc, on va, si vous voulez, là, on va ouvrir le boîtier, là. Vous êtes prêts? Alors, on y va.
Unboxing.
Vederer Prat, plus en détail. Bitfilin dans les téfilines. Lorsque je mets les téfilines. Libatel, Velikalel, Prinat Rorpato, Binato, Elokit, Biprinat. 231. Biprinat, Rorpato, ou Binato. Chez Lorenzo Baruchou. Amloubashot derer prat beparashat kadesh veaya ki yeviacha. Le Zohar explique la chose suivante. Il dit que dans les tefillines, nous avons quatre parachas. Et dans les, parmi les quatre parachas, les deux supplémentaires que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est la paracha kadeshli kolbechor. D'accord? Et c'est la paracha qui est juste après, veaya ki yeviacha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont deux parachas dans lesquels, premièrement, on demande à Kadosh Baruch il nous demande de nous sanctifier, de sanctifier notre vie pour lui, nos aînés pour lui et ce qu'on a de meilleur pour lui. Et la deuxième paracha, c'est on dit, lorsque tu arrives en Eretz Israël, dans la terre que Kadosh Baruch t'a promis, ça veut dire c'est le symbole, il était dans le désert, etc., alors tu n'oublieras pas à Kadosh Baruch. Non, écoutez bien ce que dit le Zohar. Le Zohar dit que les quatre cavités que nous avons, les quatre cavités, les quatre parachas, correspondent à quatre facultés qu'il y a chez l'homme. La paracha Kadesh et la paracha Ve'aya Keviacha représentent la Chochma et la Bina d'un homme. Chochma, c'est l'intelligence, et la Bina, c'est la sagesse. L'intelligence et la sagesse. L'intelligence, c'est le flash, c'est les idées, et la sagesse, c'est le développement. Non, Chochma et Bina, c'est le développement. Il dit le Zohar. Zohar, il dit que la paracha Kadesh et la paracha Ve'aya Keviacha, puisqu'il y en a quatre, représentent la Chochma et la Bina. Ça veut dire représentent mon intelligence vive et ma capacité de développer. Et quel est le message que je suis en train de me dire lorsque je mets ces parachutes à l'intérieur de mes tefilines? Le message que je me dis, c'est que ma capacité de réfléchir, mon intelligence et ma capacité de développer, pour qui je vais la donner? Je vais la donner pour Hachem. Ça veut dire que, ce que je vous ai en train de vous dire tout à l'heure, je vais me remettre en question, c'est une remise en question que je vais me faire. Je vais me poser la question, jusqu'à combien j'utilise mon intellect pour Dieu? Un juif religieux, il peut être religieux, il peut faire toutes les mitzvot, il peut se lever le matin, faire sa prière, mettre ses tefillines, faire son shabbat, faire son mincha, il fait tout le total. Après un moment, il doit se poser la question, il dit, jusqu'à combien je donne mon intellect à Dieu? J'utilise mon intellect pour Dieu. Honnêtement, la majorité des juifs religieux utilisent très peu leur intellect pour Dieu. C'est la vérité, il faut dire la vérité. Qu'est-ce qu'on utilise pour Dieu? Nos pulsions, actions. Oh, on fait. C'est là que la Gemara Zaken te dit, quand tu mets les tefillines, tout de suite, tu te remets en question, Kadesh, Vaya, Keviacha, tu te remets en question sur ta capacité. Il y a deux choses que nous avons. La Chochma et la Bina. Chochma, c'est la capacité de trouver des idées. Vous savez, quand par exemple, vous êtes en train de marcher dans la rue, tout d'un coup, vous avez une idée. Pour vos affaires. Bon. Pourquoi cette idée vous est tombée dans la tête maintenant? Certainement que Dieu, il a sa part dedans, mais pourquoi vous avez cette idée vous est tombée dans la tête? Vous savez pourquoi? Parce que, en vérité, votre cerveau bourdonne. Il n'arrête pas de fonctionner. Il tourne en permanence. Maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qui a déclenché. Des fois, on arrive à le savoir. Des fois, on ne sait pas. Des fois, par exemple, ce matin, je cherchais quelque chose. Juste, je suis passé, j'ai vu quelqu'un qui est passé. Hop, tout de suite, ça m'a donné un flash. Et c'est après, c'est une heure après, j'ai dit, mais pourquoi j'ai pensé à ça? Je dis, parce que je l'ai vu passer.
C'est pas un retour à l'ascenseur?
Pas du tout. Alors, ça, c'est Chochma. Chochma, c'est quoi? C'est quand ton esprit est occupé avec quelque chose. D'accord. Bien sûr que Dieu il t'envoie des idées, mais c'est plus que ça. C'est pas, il n'y a pas besoin d'arriver là. Quand je suis occupé, quand mon esprit est occupé avec quelque chose constamment, il est occupé, et bien à un moment, il y a un déclic. D'accord. Ça c'est Chochma. Maintenant c'est quoi Bina? Bina, c'est le fait que vous allez prendre une idée, et vous allez la développer, jusqu'à que vous pouvez faire une start-up, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que tout dépend comment on développe l'idée. Vous avez une idée, après tout dépend ce que vous allez en faire. Comment tu vas la développer?
Il faut développer,
c'est beaucoup s'imaginer. Alors maintenant qu'on a compris ce que c'est la Chochma et la Bina, c'est-à-dire la capacité d'innover et la capacité de réfléchir profondément en détail, j'aimerais me poser une question à moi-même, mais j'aimerais que chacun se pose une question à soi-même. Quelle est la dernière fois que j'ai eu une idée pour Dieu? Que je marchais dans la rue, j'ai dit, tiens, pack, je pourrais faire une mitzvah comme ça. Quelle est la dernière fois où j'ai pris une mitzvah et j'en ai fait un projet personnel et que je suis là à y penser pendant 3 heures, pendant 4 heures, comme j'aurais pensé pour un business?
assez rare.
C'est assez rare. Ben voilà. Là, il te dit, il te donne, voilà, le Morazaken te donne une id bonne inout. Alors, je dis pas qu'on va arriver maintenant. Je dis pas qu'on va même y arriver. C'est pas grave.
Concentration.
D'accord.
La Torah, c'est une somme de choses à faire ou à ne pas.
Non, pas du tout. Non. Ça, c'est le code civil, ça.
Ça va, d'accord. Mais tu as un code civil, comme tu dis, tu as un code civil.
Mais tu crois que Dieu est... Je comprends pas, excuse-moi, si je peux poser une question. Si toi t'étais à la place de Dieu, Dieu préserve, d'accord? Est-ce que t'aurais demandé à des gens de prendre des cuirs et de l'attacher sur leur bras? Non, d'accord, bon, disons que tu les aurais créés. Est-ce que t'aurais demandé à des gens, prenez un morceau de cuir, levez-vous une heure plus tôt que tout le monde, pourquoi? Pour mettre des morceaux de cuir sur vous et pour dire des mots. T'aurais fait ça? À tes employés, t'aurais fait ça? Alors, pourquoi Dieu fait ça?
Il y a des gens qui courent après un ballon.
Hein. Non, Dieu.
Non.
Non, mais ça veut dire, il faut se poser la question. Il dit, mais qu'est-ce qu'il attend de moi, Dieu? Pourquoi il me fait ça? Qu'est-ce qu'il a de ça? Qu'est-ce qu'il a de ça que je prends du cuir, je le mets sur mon bras? Qu'est-ce qu'il en a à faire?
Pour faire davantage de...
Donc là, c'est pour ça qu'on te dit, à un moment ou à un autre, tu es obligé de te remettre en question et de te poser la question, quelle est la symbolique de la mitzvah? Au-delà de l'aspect technique que tu fais, qu'il faut faire. Même si tu comprends pas, tu dois faire. Même si tu es contre, tu fais quand même. Ça pose pas de question. Mais après, il faut se poser la question, pourquoi je le mets? À quoi ça sert? Et là, il faut arriver à une réponse. Alors, début de réponse que te donne le Morazaken ici, il te dit, voilà ce qui se passe. Il te dit, lorsque tu mets les téfilines, il y a 4 parachas. Et je vais commencer par les 2 premières. Les 2 premières parachas, de quoi elles parlent? Elles parlent de Chochma Bina, la capacité d'innover et la capacité de réfléchir. Donc la question que je dois me poser maintenant, c'est une question très simple, c'est jusqu'à combien j'utilise ma capacité de réfléchir pour Dieu? Je peux vous dire que même en tant que responsable communautaire, je vous parle avec l'expérience quand même d'une dizaine d'années, c'est pas gagné. Ça arrive des fois. Non, mais ça arrive des fois que tu marches dans la rue et que tu as une idée pour la synagogue. C'est bien. L'idée, elle vient jamais toute seule. Si elle vient, c'est que forcément mon esprit était...
C'est-à-dire qu'il y a une bonne approche.
Bah, bien sûr, qu'il est occupé par ça. Mais si, comme Michael, il a dit, tu dis à voix haute ce que beaucoup de gens pensent. Si, comme Michael, il a dit, le judaïsme, c'est seulement un ramassis, enfin bon, excusez-moi du terme, d'accord, une somme de choses à faire, bon, je fais ce que je dois faire.
Il y a de ça.
Non, mais c'est pas la question de ça. C'est, comme c'est une somme de choses à faire ou à ne pas faire, pourquoi tu me demandes de...
Bon, ça veut dire comme ça. C'est, imaginons par exemple, tu vois, tu prends les affaires, on te dit, voilà, une fois que tu as gagné 100, sur les 100, bah, tu as donné tant aux impôts, tant à l'URSSAF, tant à ci. Maintenant, si tu poses la question, tu dis, nickel, je pose la question en tant que gérant, je dis, mais pourquoi tu donnes aux URSSAF? Pourquoi tu donnes aux impôts? Pas de question, moi je donne. C'est pas mes affaires de penser.
10%.
Me pose pas de question, moi, si je pouvais, non. Si je pouvais, je l'aurais gardé cet argent. Mais il faut donner. Non, seulement pourquoi il faut donner? Et pourquoi il faut donner? T'as une fiche de paye, t'as 15 minutes, tu comprends pas à quoi ça correspond. Et les CGG, les CDDD, les CDR, et les etc. Je sais même pas à quoi ça correspond. Une fois, je me suis amusé à prendre une fiche de paye et regarder, comparer, essayer de comparer avec. Je suis parti sur Google pour voir, juste pour comprendre ce que c'est. Il y a écrit. Parce que tu payes pour des trucs. Il faut savoir pourquoi tu payes quand même, non? Et tu vois des trucs que.
Pas pour toi,
tu payes exactement. Alors voilà. Est-ce que c'est ça les mitzvot? C'est ça les mitzvot. Les mitzvot, on dit, bah écoute, tu payes, tu fais, tu comprends pas, c'est pas grave. Non, ça marche pas comme ça.
Non, mais
la mitzvah, tu dois la comprendre. Tu dois te poser la question, qu'est-ce que la mitzvah m'apprend comme message? Et là, on te donne un exemple, et Tfilin t'apprend le message que tu dois soumettre ton esprit à Kadosh Baruch Hu. Alors, vous allez voir des mots encore plus forts qu'il va dire juste après. Page 232. Da'inu, ça veut dire, shelo leishtamesh b'chokhmato vinato shebenafsho bilti l'Hashem levado. Voilà la mitzvah. La mitzvah des téfilines, quand je mets les téfilines, je me travaille et j'essaye de faire que mon intellect, ma capacité de réfléchir, ma capacité de développer, je vais l'utiliser exclusivement pour Hachem. Vechen, pareil. Libatel, velikalel, prinat adach, j'accélère un peu, hein, parce que je vais aller à la suite. Adach, benafsho, akolel, chesed ugvura, shen ira, veava, shebelibo, mi prinat darat, elion, akolel, chesed ugvura, amlubaj, parachat, shema, veayaim, shamoa. Bah, inouk, moi, je suis katou, je suis un amour, le shabed, à lève, à moire. Bon, je vais expliquer, hein. Je suis parti vite, mais je vais expliquer tout de suite. On a dit que dans les téfilines, il y a 4 parachas. On est d'accord? Dans celle du bras, c'est un parchemin avec 4 parachas. Dans celle de la tête, c'est 4 parchemins différents. Ok. Mais c'est les mêmes. Pourquoi 4? Quoi, c'est correspond ces 4? Là, il ramène du Zohar. Le Zohar nous dit que les 4 correspondent, les 2 premières. D'accord, ça veut dire, Kadesh, Vehaya. On recommence pas par le chemin, hein. Premier paracha, c'est Kadesh. Kadesh, Likol, Vechor. Pas le chemin. Kadesh, Vehaya, d'accord? Shema, Vehaya. Ok? Alors, La première paracha du Kenan Tfilin correspond à Chochma, l'intellect, la capacité d'innover. La deuxième paracha, Vehaya, correspond, Vehaya qui est Vehaya, correspond à Bina, la capacité de développer, pas seulement la capacité d'innover, le flash, la capacité de le développer. Ensuite, la troisième paracha, Shema, ça représente Chesed, l'amour de Dieu. Et la quatrième paracha, Vehaya im Shamoa, représente la rigueur, parce que dans la quatrième paracha, on te met en garde, dis attention, si tu écoutes pas, voilà ce qui va tomber sur la tête, donc c'est la rigueur. Donc, intelligence, ça veut dire flash, intelligence, d'accord, développement, bonté, rigueur. Ce sont les quatre choses qu'il y a chez un homme. Quatre choses qui forment un homme. C'est-à-dire que là, si vous voulez, ce que j'ai fait, tout à l'heure, je vous ai dit que si on devait nous définir, on se définit avec quel domaine. On a l'intellect, le cerveau et le cœur. Maintenant, là, ce que tu dis là de Morazaken, c'est qu'en vérité, c'est pas vraiment en deux qu'on peut découper, mais c'est comme on dit dans la Gemara, Shtaim Shen Arba. On découpe en deux, et ces deux-là, tu peux les découper en deux, encore une fois. Comment on les subdivise? C'est très simple. Il y a le monde de l'esprit et le monde du cœur. Le monde de l'esprit est composé, lui aussi, de deux niveaux. Dans le monde de l'esprit, il y a l'aspect flash, ça veut dire les idées, et il y a l'aspect développement. Et ce sont deux étapes différentes, complètement différentes. D'ailleurs, vous avez des gens qui sont, leur esprit fourmille d'idées, mais ils ne savent pas les mettre en pratique. Et s'ils réussissaient à mettre en pratique, à développer même une idée, ils seraient milliardaires. Mais ils ne savent pas le faire. D'un autre côté, tu en as d'autres, ils ne savent pas avoir des idées, mais par contre, une fois qu'ils vont avoir une idée, ils savent la développer. Et on peut développer une idée à l'infini. À l'infini, on peut la développer. Il n'y a pas de fin. Ça, c'est l'intellect. L'intellect est composé de ces deux aspects. Un aspect flash, idée, et un aspect développement. Maintenant, le cœur est composé, donc se subdivise, en deux sentiments, qui sont la base de tous les sentiments qu'on a sur Terre. Il y a un sentiment d'amour et un sentiment de crainte. Pourquoi je dis amour et crainte? Parce que l'amour me donne envie de m'approcher de quelque chose, et la crainte me donne envie à m'éloigner de quelque chose. Si vous partez de cette base, vous avez tous les sentiments possibles qui viennent de ça, qui viennent d'une bonté et qui viennent d'une rigueur. Donc ça veut dire qu'en fait on a deux mondes qui sont le monde de l'intellect et le monde des sentiments. Mais en vérité, chacun de ces deux mondes se divise en deux. C'est la raison pour laquelle dans les Tefilin, combien de parachats on a? Nous avons quatre. Kadeshli, d'accord? Réflexion. Vayaki et Viacha, on a dit, ça représente le développement. Ensuite, le schéma représente le chesed. Écoute Israël, éternel notre Dieu, je l'aime, etc. Ça, c'est la bonté. Et Vehayaim Shamoa, ça, c'est la rigueur. On dit, attention, tu écoutes pas Dieu. Voilà ce qui va se passer. Le ciel va s'arrêter, etc. T'auras pas de pluie. Bon, la pluie, on arrive au Hachem. D'accord? Voilà. Voilà, c'est la bracha. Ok? Donc, on a eu le mikvé. En plus, au 13e, vous savez, au 13e, on a été le 13e et 15e. 13e et 15e, on a été les quartiers les plus touchés, Baruch HaShem. Tu veux bien sûr. Il y a eu Maboul ici. Vous avez pas vu les vagues qu'il y avait hier soir ici? Des vagues! Des vagues! Là, sur la rue, là, des vagues! Des vagues comme ça! Je suis sérieux?
Non, c'est vrai.
Métro,
d'ailleurs, bon.
Le courant.
Oui.
Il
est sur le générateur. Hein? Vous savez que le courant là, de tous les immeubles qu'il y a ici, il est sur générateur. C'est-à-dire, chez moi, à la maison hier, ça a coupé à
20h.
Ça a coupé à 9h30, quelque chose comme ça.
Et
après, ah oui, c'est un générateur. C'est un camion.
Sur un camion générateur.
Oui, oui, un camion, bah oui.
Il est revenu à 2h du matin.
Oui.
Toi aussi, t'as 2h.
D'accord. Pardon? Non, mais ça va, ils ont remis avec un générateur. Là, jusqu'à maintenant, c'est encore générateur. Ils ont pas encore. Alors. Oui.
Ceux qui partent en vacances, s'il y a personne pour relancer le moteur, là,
ça va. Ah, bah, c'est ici, hein.
Non, mais
en fait,
tu rigoles, quoi.
Bon, continuons. Donc, nous avons dans les tefilines 4 cavités ou 4 parachas. Ça correspond aux quatre éléments. Pour te dire quoi? Pour te dire, tu dois tout donner à Kadosh Baruch Hu. Ta capacité d'innover, ta capacité de développer, ta capacité d'aimer, ta capacité de craindre, tout tu donnes à Kadosh Baruch Hu. C'est pas facile. C'est même difficile. Mais c'est une réflexion qu'on doit avoir. Et c'est une réflexion que nous avons l'obligation d'avoir tous les jours. Ça veut dire que si vous ne la faites pas demain matin, votre mitzvah de tefilin n'est pas complète. Regardez votre sidour, vous verrez que dans votre sidour, avant de la mitzvah de tefilin, c'est écrit juste avant, il faudra penser à ça. Prenez le Shulchan Aruch, c'est écrit noir sur blanc dans le Shulchan Aruch. La kavana qu'on doit avoir. C'est un des rares endroits dans le Shulchan Aruch dans lequel on te dit la kavana que tu dois avoir. Il n'y a pas d'autre endroit. La kavana que tu dois avoir quand tu mets tes tefilines, c'est que de la même façon que tu mets les tefilines sur le bras et sur la tête, ça veut dire que tu dois soumettre ton cœur et ton esprit. Ton cœur est composé d'amour et de crainte, donc tu dois essayer d'aimer Dieu et de craindre Dieu, et ton cerveau est composé d'intellect, donc de flash, d'accord, d'idées et de développement, et ça aussi, tu dois le donner pour Akadosh Baruch Hu. Moi, ça m'arrive des fois, par exemple, vous savez, il y a des gens, et ça me fait plaisir. Et des fois, des gens de temps en temps, c'est assez rare malheureusement, mais de temps en temps, des gens qui viennent me voir me disent, tu sais, Mandy, j'ai eu une super idée pour la synagogue. Je suis content. Alors, des fois, les idées sont faisables, des fois, elles ne sont pas faisables. Mais au-delà de la faisabilité de l'idée, je me dis, tu t'imagines, il y a quelqu'un qui avait sa tête occupée par la synagogue et qui se pose la question, comment on peut améliorer une synagogue? C'est très très bien, c'est magnifique. Et quand il vient te voir, tu dis, mais c'est bien. Ça veut dire que le gars, il est occupé avec sa tête, avec la synagogue, et il a eu une chorma, il a eu un flash. Ça veut dire que sa tête est occupée avec ça. Mais c'est magnifique. Ça, c'est un exemple de ce que j'appelle donner une idée pour Dieu. Après, il y a le développement aussi, réfléchir comment je vais développer quelque chose. Et ça, c'est le travail qu'on a quand on met les téfilines. Le symbole des téfilines, c'est de me dire, je dois donner le maximum de mon être à Kadosh Baruch Hu, mon être intellectuel et mon être sentimental. Ça, j'ai touché avec ça côté téfiline. Maintenant, on va passer au talit. Là, le talit, c'est un autre registre. Complètement un autre registre.
On ne pourrait pas mettre des photos du...
Hein?
Du boîtier démonté, à quoi non, ça sert pas du... le matin, ça peut donner peut-être une idée.
Vous savez pourquoi il n'y a pas de photos? Parce que la photo est dans votre tête.
Oui, mais bon. C'est comme ça veut dire que tu rentres, tu sors et t'as fait...
Non, bah c'est ça, ouais.
Bah, qu'est-ce que vous voulez?
Mais les tefilines tous les jours. Alors, je veux être honnête avec vous. Est-ce que je peux vous dire que tous les matins quand je mets les tefilines, j'ai cette kavana? Non. Ça m'arrive souvent, bah, au Hachem, mais c'est pas tous les matins. Parce que non, je vous dis la vérité, c'est que des fois, je les ai déjà mises, etc. Et 5 minutes plus tard, je dis, ah, tiens, mince, j'ai même pas fait attention. Ça, on les met par routine, des fois. T'as un truc, etc., t'as un appel, etc. Après, tu mets, tiens, attends, j'ai mis les tefilines, là.
Une heure de temps.
Et après, tu dis, attends, c'est quoi cette histoire? Pourquoi j'ai mis les tefilines, là? Quoi ça sert?
T'as la pizza au four.
C'est important. C'est le symbole. Donc là, vous voyez, vous ne verrez plus vos tefilines comme un boîtier de lanière en cuir qu'on met parce qu'il faut les mettre. Non? Il y a un message. Le message des téfilines, comme on a dit, c'est le message de soumettre mon cœur et mon esprit à Hachem. On va continuer avec le talit. Là, je passe à la page 233, on va aller un peu plus doucement. Ou bah, tifa titit. Lorsqu'on va s'envelopper du titit. Oui?
On
pourrait porter
les
vêtements
en permanence. Donc, on doit soumettre.
Non, ça n'a rien à voir.
Même si... Quand tu dis je soumets, ça ne va durer qu'un instant, combien même.
Mais le fait même d'y avoir une pensée à ça, même une seconde par jour, c'est important.
Alors finalement, quand on a quitté les filles, même l'idée va nous quitter.
Non, je n'ai pas dit ça. C'est une remise en question. C'est une piqûre de rappel. C'est une piqûre de rappel, une fois par jour. C'est important. D'accord. Une piqûre de rappel. C'est comme ça.
Oui, mais en principe, c'est fait pour durer. Alors, c'est...
Oui, mais tu comprends que si j'ai commencé ma journée avec ma première pensée, en me disant, enfin en tout cas le premier acte, en disant voilà, il faut que je soumette mon cœur et mon esprit à Hachem, j'ai de fortes chances que c'est ce qui va se passer pendant la journée. Que je vais, c'est vrai que je vais aller travailler, etc. Mais que mon esprit sera occupé avec Dieu, c'est bien.
C'est pour ça effectivement que tu disais à chaque fois, c'est d'orienter le matin, vers avant tout, pas de s'occuper de tout le reste, les mails,
parce qu'on a du temps. Tu as eu le temps de vérifier toutes les notifications WhatsApp que tu as reçues. Toutes les notifications Facebook que tu as reçues. Tous les mails que tu as reçus.
Mendy, moi je me souviens.
Hein?
Mendy.
Ah bah oui.
Mendy. Moi je me souviens d'une campagne de publicité que vous faisiez à l'époque pour l'allumage des bougies.
Oui.
Mais par 4 par 4.
Là. Oui, oui.
Moi, forcément, j'ai pas de problème. Mais j'imaginais celui qui n'avait pas l'habitude de voir cette publicité, comment ça devait l'interpeller. C'est-à-dire que, tiens, tu vois la machine, enfin, tu vois le rabbi, tu vois les bougies. Je pense que c'est un rappel à l'ordre.
Ah, bien sûr.
Alors, à ce moment-là, si tu dis que les téfélines, aujourd'hui, c'est un combat de tous les jours, la même campagne, elle serait bien de la faire.
Mais ça...
La même idée pour dire, voilà, vous êtes fait quelque part, loin, là-bas. N'oubliez pas que ça, c'est important.
N'oubliez pas l'introduction qu'on a fait dans le chapitre 40, avant le chapitre 41. Non, je comprends ce que vous voulez dire.
Il y a de l'oseille. Il y a de l'oseille.
Bien sûr que Hachem, il envoie. Mais n'oubliez pas un point très important.
C'est ça la bagarre.
C'est que là, on est, si vous voulez, on a passé la deuxième vitesse, là. Ça veut dire que la première vitesse, déjà, c'est de s'assurer que tout le monde met les tefilines. Non, mais ça, voilà, c'est déjà. Maintenant, une fois que tu mets déjà les tefilines, le gars, il met les tefilines. Il dit, bon, maintenant, je fais quoi? Tu lui dis, maintenant, on va t'expliquer ce qui se passe quand tu mets les tefilines. C'est ce qu'on fait maintenant. Les tefilines, tu les mets maintenant, ça y est. Bah, Mazal Tov. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque je mets les tefilines? Pourquoi c'est important de mettre les tefilines? Pourquoi c'est tellement important? C'est vrai! Demain, ton fils, il te pose la question. Il dit, mais papa, pourquoi c'est important de mettre les tefilines? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Tu prends un truc de cure, tu mets sur toi, à quoi ça sert? Qu'est-ce que tu prends, tu fais ça? Pourquoi tu t'attaches un truc sur toi? Là, tu as un élément de réponse. Est-ce que ça veut dire qu'on a tout compris? Non, il n'y a que Dieu qui comprend tout. Mais on a un élément de réponse. Que je soumets mon cœur et mon esprit à Hachem et que c'est composé de quatre parachats. Mais je voulais avancer avec le Talit, parce que sinon, je vais avancer aujourd'hui avec le Talit. Ou Batifa Titit, page 233. Lorsqu'on va s'envelopper du Titit, Yechaven, il aura la Kavana. Que moi, Shekatou Bezoar, ce qui est écrit dans le Zoar, Leham Shichalav Malchuto Itbarer. Lorsque je mets les Titit, je vais avoir la Kavana d'attirer sur moi la royauté de Dieu, béni soit-il. On va développer tout de suite. Asherhi malchut kol olamim, que cette royauté est la royauté de tous les mondes, ça veut dire que Dieu, sa royauté, c'est pas seulement la royauté qui est en haut au Gan Eden, c'est la royauté qui est partout. Le yachada aleinu alite mitzvazo, et que je vais dédier cette royauté, je vais faire descendre la royauté d'Hachem sur moi, avec la mitzvah des titit. Alors on va avancer un petit peu. Veu keinyan, som tassim alecha melech. C'est comme la mitzvah de Som Tassim Alecha Melech, tu placeras sur toi un roi. Ah, c'est intéressant. Vous savez qu'il y a une des 113 mitzvot de la Torah, c'est quoi? C'est de se nommer un roi. Alors, la Torah ne dit pas tu te nommeras un roi. Elle dit tu te placeras sur toi un roi. Bon, d'abord, il faudrait qu'on s'arrête de cette mitzvah. Pourquoi la Torah veut qu'on nomme un roi?
Conseil pour
tout, à quoi il sert un roi?
Décisionnaire.
Mais pour mettre l'ordre.
Pourquoi en Israël on aurait besoin d'un roi? À quoi sert un roi?
Pour mettre de l'ordre.
Hein? Pour mettre de l'ordre, on n'a pas besoin d'un roi. Un général peut mettre de l'ordre. Un directeur peut mettre de l'ordre. Un responsable peut mettre de l'ordre.
Ça rappelle la royauté du ciel.
Attendez, le problème c'est que, surtout que les rois, on connaît beaucoup de rois qui ont très mal utilisé leur pouvoir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'en parlais Shabbat aussi, quand on dit aux gens aujourd'hui roi Mashiach, les gens ils ont peur. Les gens ils ont peur. Mais ou ils te le disent ou ils te le disent pas, mais pourquoi ils ont peur? Parce que, avec tout ce qu'on a connu avec les derniers rois, que ce soit dans la Torah, quand on lit la Bible, ce qu'ont fait les derniers rois d'Israël. Et quand on connaît juste l'histoire de France, pourquoi aller chercher loin? Quand on voit, qu'est-ce qu'ont fait les rois de leur pouvoir en France? Ils avaient des sommes colossales. Ils ont fait quoi avec ces sommes?
L'argent.
Ils ont fait leur plaisir et la guerre. Est-ce qu'ils sont occupés des gens qui mouraient par millions?
La preuve, non, ils ont fait la révolution.
Ils ne sont pas occupés. Donc ça veut dire... Et c'est d'ailleurs pour ça que le régime des rois a été aboli. Pourquoi il a été aboli? Parce que justement, parce que ça ne fonctionnait pas. Alors pourquoi donc seulement, le problème c'est quoi? C'est que la Torah est éternelle. Je ne peux pas venir moi maintenant et dire que la mitzvah de nommer un roi d'Israël, c'est l'équivalent de l'époque. Comme à l'époque il y avait des rois partout, alors on dit, bon, toi c'est ton roi. D'accord? Mais pourquoi moi je dois nommer un roi aujourd'hui? Et je vais aller plus loin que ça. Dans la paracha Shoftim, il est écrit comme ça. Il est écrit... Lorsque tu vas arriver en Israël, et qu'un jour tu diras, je veux avoir un roi comme tous les pays autour de moi. Tu vas dire, je veux avoir un roi comme tous les pays de moi. Alors qu'est-ce qu'on te dira dans ce cas-là? Som tassim alecha melech, tu placeras sur toi un roi. Et on connaît l'histoire. L'histoire, c'est que le premier roi qu'on a nommé, le peuple juif, c'est qui? C'est qui le premier roi qu'on a nommé?
Shaoul.
Shaoul. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Shaoul? Shaoul, c'était la guerre.
Il était déchu.
D'accord? Pas seulement ça. Il a pas écouté Hachem.
Oui, c'est bien passé.
Hachem lui a dit, ne prends pas les... Alors, pourtant, Shaoul était quelqu'un de très pieux. Très pieux.
Ah bon, tu te débarrasses des enfants, des femmes.
Alors, quel est le symbole de la royauté dans la Torah? Est-ce que la royauté, c'est quelque chose de bien, ou quelque chose de pas bien? Alors, le rabbi de Tzemarsed, dans son commentaire d'Erech Mizoter, il développe longuement ce sujet. Il dit la chose suivante. Il dit, en fait, dans la royauté, il y a du bon. Pourquoi? Normalement, on devrait pas avoir besoin de roi. Normalement, on devrait dire notre roi, c'est qui? Dieu. C'est Hachem. J'ai pas besoin de roi. Seulement, c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'avec le temps, comme on a, des fois, on peut avoir du mal à communiquer avec Dieu, même tout le temps. On a du mal à communiquer. Donc, on va demander à Hachem, on va lui dire, est-ce que Hachem, tu as pas un être humain, un être en chair et en os, qui peut représenter ta royauté?
Un prophète, pourquoi?
Attendez. Qui peut représenter ta royauté? Mais vous comprenez que cette personne qui est censée représenter la royauté de Dieu, non, justement, il doit être le plus humble de tout le peuple. Parce que, étant donné qu'il est censé représenter l'humilité, représenter l'annulation à la royauté de Dieu, donc il doit être le plus humble de tout le monde. Et c'est ce qu'était le roi Shaoul. Le roi Shaoul était très humble. Il était humble. Mais, Avec tout ça, on voit que c'est pas forcément bien terminé. Parce que normalement, on devrait pas avoir de roi. Normalement, notre roi, c'est Hachem. Seulement, quand on vit dans un monde dans lequel, dans les faits, c'est, des fois c'est difficile, alors on dit, bon, Hachem, on dit, on veut une personne. On veut un roi. Avec qui on veut parler. Avec qui on peut parler. Et ce roi, il va nous représenter ta royauté. C'est la raison pour laquelle le roi a plusieurs mitzvot. Par exemple, on dit au roi, le roi, il doit avoir un deuxième Sefer Torah. Vous savez que dès que le roi accédait à son poste, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait écrire un Sefer Torah, un deuxième. Ça veut dire que même s'il avait déjà son propre Sefer Torah en tant que chacun du peuple, il a le mérite d'avoir son Sefer Torah, il devait écrire un deuxième Sefer Torah, petit, avec lequel il devait se balader partout. Partout où il allait, même déplacement pour aller chez le coiffeur, il devait tout le temps prendre avec lui ce petit Sefer Torah. Pourquoi, d'après vous? Pour se rappeler. Maintenant, ça, moi, j'ai pas cette mitzvah. Lui, le roi, il a cette mitzvah. Pourquoi il a cette mitzvah? Parce qu'on dit constamment, tu dois te rappeler, que tu n'es qu'un représentant de Dieu, et que tu ne fais que représenter la royauté de Dieu. Maintenant, le roi a d'autres challenges, notamment le fait qu'il va commencer à vouloir élargir ses possessions. Il va vouloir commencer à avoir beaucoup plus de femmes, à l'époque où la polygamie était autorisée. Les chevaux, et les biens, etc. Alors la Torah touche ces trois choses. Elle te dit, le roi, il n'a pas le droit d'avoir trop de femmes. Alors trop, la Gemara dit, c'est 18. D'accord. D'accord. Il n'a pas le droit d'avoir non plus aussi trop de chevaux. Ça y est, marqué dans la Gemara, 18, 24, etc. Et il n'a pas le droit d'avoir aussi trop d'or et d'argent. C'est ce qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est les femmes. D'accord. C'est les chevaux sous le capot. Ah, le cycle du cheval. Hein. Alors, voilà. On sait à qui on parle. Et l'or et l'argent. L'or et l'argent. Pourquoi la Torah lui demande au roi de faire attention à ça? Parce que la Torah connaît le roi. La Torah sait qu'une fois que tu as le pouvoir entre tes mains, tu peux oublier qui tu représentes. Tu peux croire que tu te représentes tout seul. C'est toi le roi. Donc tu vas grandir, grandir, grandir. C'est pour ça que la Torah freine à chaque fois. Tu dis attention, arrête-toi là. Il ne faut pas que tu oublies ta fonction. Ça, c'est la mesure de la nomination du roi. Et c'est pour ça que lorsque Mashiach va venir, comment on appelle le Mashiach? On appelle aussi le Melech à Mashiach. Il y avait un avis dans la Gemara qui pensait qu'il n'y aura pas de roi Mashiach. Hillel, il pensait comme ça. Il dit, d'après moi, il n'y aura pas de roi Mashiach. Le roi Mashiach, c'était Chizkia. Et Chizkia, depuis qu'il est mort, donc du coup, maintenant, Mashiach sera une ère, une époque. Il n'y a pas de roi. Mais la Gemara, là-bas, repousse cet avis. Et le Khatam Sofer, il dit que, puisque la Gemara repousse cet avis, celui aujourd'hui qui dit que, d'après moi, Mashiach, ce n'est pas un roi, c'est une ère. Eh bien, quelque part, c'est un renégat. Parce que Mashiach, c'est un roi. Ça veut dire que même lorsque Mashiach va venir, on aura besoin de communiquer au travers d'un tzadik qui sera un roi. Et ça explique beaucoup de choses. Hein. Parce que la Gemara elle dit aussi « Man malche rabbanan ». Qui sont les rois? Ce sont les rabbanim. Et des fois, il y a des gens qui sont étonnés sur le kavod sans limite qu'on donne à des rabbanim, à des rabbis. Je dis, mais pourquoi on donne un kavod extravagant? Est-ce que c'est pas quelque part un manque de respect envers Dieu? Normalement, c'est qui notre rabbi normalement? C'est qui? C'est Dieu. Pourquoi tu as besoin de passer par un maître? Ça, c'est la réponse. C'est que si on était dans un monde idéal, dans lequel on arrive à communiquer directement avec Dieu, dans ce cas-là, ni a besoin de roi, ni a besoin de communiquer avec un rabbi directement, ni a besoin de rabbi, rien besoin, je communique directement avec Dieu. Est-ce qu'il y a mieux que ça? Mais étant donné qu'on vit dans un monde dans lequel c'est pas le cas, donc on demande à Hachem de nous mettre un intermédiaire, mais pas un intermédiaire qui est là pour nous séparer. Un intermédiaire qui est là, au contraire, pour nous aider à nous lier avec Hachem. À nous faciliter. Ça, c'est le roi.
On sait qui est le premier roi déclaré? Le premier roi déclaré.
Shaoul.
Non, mais... En dehors d'Israël, il y avait d'autres rois.
Ah, ça, je sais pas.
Mais quelle notion ils avaient de ça? Je veux dire, si tu dis que Dieu.
Un roi, c'était un chef.
Un roi, c'est un chef.
Comment il se.
Vous savez, on a du mal aujourd'hui à définir ce que c'est un roi.
Par rapport à Dieu, tout le monde, et puis il s'est passé.
Vous savez, la Gemara, il y a une expression talmudique qui dit comme ça. Qui dit, le roi a dit, on déracinera la montagne. Ça veut dire, si le roi, il dit, voilà, il y a une montagne ici, je la veux plus. Eh ben, on la déracine. On prend 10 ans, 15 ans, 50 ans. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que, pourquoi on a du mal à comprendre la royauté aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, le roi, il est nommé, aujourd'hui, le président, il est nommé par qui?
Par le peuple.
Donc, c'est qui le roi? C'est nous le roi.
Il y a certains qui sont plus privilégieux.
Non, mais attendez. Qui nomme le président?
C'est le peuple.
Donc, ça veut dire que le président n'est pas roi. Il est représentant du peuple.
Non, mais ça, j'ai compris, mais la notion.
C'est le principe de la démocratie.
Quand tu dis roi, là, tu dis la royauté par rapport à Dieu.
Un roi, c'est différent.
Mais quelle notion qu'ils avaient par rapport à Dieu, tous ces gens-là, à l'époque?
Ils se prenaient pour Dieu.
C'est non.
Ah, c'était pas
de... Donc, ils avaient une notion de Dieu. Ça.
Oui, mais c'était mauvais. Les rois comme le roi Pharaon, etc., c'est des rois qui utilisaient leur pouvoir pour écraser les autres.
Oui, mais ils se prenaient pour des divinités.
Et là, il y a l'approche de la Torah. Qui te dit dans la Torah, un roi n'est pas là pour écraser le peuple. Un roi est là pour élever le peuple vers Hachem.
C'est pas un despote.
Ouais. Maintenant, sur tous les rois d'Israël, combien on peut dire qu'on a eu de rois comme ça? Ça se compte sur les doigts d'une main. Combien de rois comme ça on a eu? Des rois qui ont élevé le peuple vers Hachem. Et qui n'ont pas écrasé le peuple. Même dans, vous, ouvrez la Bible. Ouvrez la Bible. Lisez.
On a eu le rabbi.
D'accord? Non, mais je parle dans les rois d'Israël. Lisez. Vous allez voir que la majorité des rois qu'on a eu, c'était des mauvais rois. Des rois qu'on a utilisé à pouvoir. Mais pourtant, c'est une mitzvah la Torah. Alors maintenant, pourquoi je vous parle des rois? Parce que c'est le Zohar qui dit comme ça. Le Zohar, il dit la chose suivante. Là, je reviens au Talit. D'accord? Qu'est-ce que dit le Zohar? Le Zohar dit, la mitzvah de mettre le Talit sur soi, de s'envelopper du Talit, ça ressemble à la mitzvah de somtassim alechamel, à te placer sur toi un roi. Parce que c'est intéressant comme mitzvah. La Torah n'a pas dit, nomme-toi un roi.
Non, place-toi.
La Torah n'a pas dit « accepte la souveraineté d'un roi ». C'est pas les mots de la Torah. La Torah a dit « Som tassim alecha melech ». Place-toi sur toi-même un roi. Ça veut dire que qui va nommer ce roi? C'est le peuple, et le peuple va décider de se faire régner par un roi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous êtes chez vous à la maison et vous dites « je suis le roi du monde ». C'est possible?
Ah, si, tu peux.
Il arrive le balai à la bon. Cuisine. On va dire, il y a un hôpital pas loin.
Ouais, il y a
d'accord?
Satan.
Bon. D'accord? Pourquoi? Parce que tu peux pas être roi si tu n'as pas de.
Reine.
Sujet. Ah. Non, de reine, tu l'as. En Meler Beloam. Il n'y a pas de roi sans sujet. Maintenant, peut-être que potentiellement, je te fais confiance. Peut-être que potentiellement, t'es un roi. Pas de problème. T'es le roi du monde. Mais montre-nous tes sujets. On les voit pas tes sujets, ils sont où tes sujets?
Mon chef, c'est mon sujet.
Non, on veut des sujets.
C'est ton chef.
Tu les as pas?
Bah, mais il travaille pour moi.
C'est ton chef.
Alors, comment ça marche? Comment ça marche? En Meler Beloam. C'est pour ça que la Torah te dit la chose suivante. Qu'est-ce que te dit la Torah? La Torah te dit, Som Tassim Alecha Meler. Le jour où tu décideras que tu voudrais un roi, sache que le roi, tu devras te le placer sur toi-même. Ça veut dire, ne crois pas qu'il y a un individu qui viendra et qui dira, bonjour, je suis votre roi. Ça n'existera pas. Et même moi, Dieu, je ne le ferai pas. Jamais je dirais, bon, ben voilà, j'ai nommé, c'est lui votre roi, vous l'écoutez. Je le ferai jamais. L'action de nommer un roi, comment ça va se passer? C'est le peuple qui doit décider de nommer sur lui un roi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que lorsque le roi, par exemple, mourait, et qu'on devait nommer son fils ou un autre, un successeur, à chaque fois, exactement, le roi est mort, vive le roi. Qui disait vive le roi? Le peuple! Très important, Yechiya Meler. Parce que si le roi ne disait pas, si le peuple ne disait pas vive le roi, ça veut dire que le peuple n'a pas accepté la souveraineté du roi. Et la Torah te dit, c'est quoi la mitzvah? Som tassim alecha meler, tu devras placer sur toi un roi. C'est toi qui le place le roi sur toi. Ça veut dire ce roi va te dominer. Mais ce roi, c'est toi qui vas le placer sur toi. Bon, alors revenons au Talit. Eh bien, le Talit, c'est exactement la même chose. C'est quoi le Talit? Je prends le Talit, et je m'enveloppe du talit. Maintenant, c'est intéressant, parce que c'est pas un talit qu'on m'a enveloppé. C'est pas Dieu qui est venu qui dit, tiens, je te prends et pac, je t'attrape.
Non,
il te dit, tu vas prendre toi-même un talit et tu vas toi-même t'envelopper avec le talit. Au point que tu vas dire, le talit m'enveloppe. Mais c'est toi qui l'as fait, comme le roi. Ça veut dire, ce roi va te dominer, mais qui a placé le roi, c'est toi. De la même façon pour le talit. Ça veut dire, tu vas accepter la souveraineté d'Hachem, mais qui va la mettre sur toi? C'est toi. Là, vous avez le secret du judaïsme dans cette mitzvah-là.
Oui, parce que c'est
le secret du judaïsme, c'est ça. C'est Dieu, il dit, je ne t'imposerai jamais ma Torah. C'est pas moi qui t'impose. Mon but, c'est pas de venir de dire, voilà, je te parle, fais-le, etc. Non. Mon but ultime, c'est quoi? C'est que c'est toi-même qui va prendre le talit de Dieu, c'est une image, et qui va te l'envelopper sur toi-même.
Alors, comment se fait-il qu'il y a des gens qui ne mettent pas leur tête?
Non, ça rien, c'est le symbole du talit, là.
Mais d'accord, pas
le...
là, c'est quelque chose de très fort.
Non, mais j'ai compris, mais c'est le symbole. Parce qu'il faut être au niveau de comprendre ça. Que vous croyez.
Faut comprendre,
ça, ah oui. C'est un niveau, ça. De comprendre que c'est quoi la mitzvah.
C'est-à-dire que le mec, s'il se marie pas, il pendant des années, il met pas le talit.
Attendez.
Ça, c'est une règle. C'est une...
D'abord.
Non, mais j'ai compris.
D'abord.
Si tu prends ce symbole qui
non, mais je vous pose une question.
C'est un symbole fort.
Qui vous a dit qu'on avait le talit?
C'est l'homme de Dieu, donc tu acceptes la puissance de Dieu, il va t'accompagner peut-être.
Qui vous a dit qu'on avait le talit pour faire la prière? Où c'est écrit?
Pardon?
Qui vous a dit qu'on doit mettre le talit, on doit s'envelopper du talit pour faire la prière?
Alors, on vient d'expliquer là.
Non, mais où c'est écrit? Dans la Gemara, c'est écrit quelque part? Dans le Talmud, c'est écrit nulle part.
Ça fait presque une heure qu'on en parle.
Maintenant,
il y a une présence,
je comprends. Je m'arrête pas sur le détail technique. Est-ce qu'on met le talit avant la prière, pendant la prière? Je m'arrête sur le symbole de la mitzvah. Après, le symbole de la misa, il y a des minagim, il y en a qui vont le mettre, il y a des gens qui vont mettre le délit toute la journée. Il y en a qui vont le mettre que pendant la prière.
Écoute ça comme ça, je trouve ça génial.
Ah oui, c'est magnifique, c'est extraordinaire.
Donc il y a une puissance, d'accord, il y a quelque chose de puissant.
Exactement. Il faut suivre la puissance, c'est pas pour le mettre pas toute la journée, parce que voilà, parce que chacun a ses minagim, c'est pas la question. Mais on a ici le symbole, on a un symbole très puissant. C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on te dit, c'est quoi le symbole du talit? Et c'est là qu'on voit dans l'action, regardez l'action. Vous prenez le talit et vous l'enveloppez vous-même sur vous-même. Vous-même sur vous-même. Ça veut dire, je m'impose la souveraineté d'Hachem. Je me l'impose.
C'est le seul peuple sur la planète.
Je dis pas à quelqu'un, mets-le moi. C'est moi qui me le mets.
C'est pas le peuple élu, c'est lui qui a élu.
C'est ça.
C'est nous qui avons élu nous-mêmes.
D'accord.
C'est pas Dieu qui nous a élu, le peuple.
Et donc, dit l'Admor HaZaken, normalement, si tu réfléchis à tout ce qu'on t'a dit, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, ça veut dire, rappelez-vous le mode d'emploi qu'on a au chapitre 41. Mode d'emploi, chapitre 41. D'accord ? D'abord, avant de commencer la prière, tu te rappelles ce qu'on a expliqué dans le cours précédent, le cours d'avant. Rappelle-toi, fais une pause. Rappelle-toi que Dieu, il met de côté tout le monde, tout le Gan Eden, tout le Lamaba. Et qui, il vient à côté de toi, il dit, je t'attends ta mitzvah à toi. Ensuite, après, tu mets le talit. Et dans le talit, quand tu penses, tu dis, voilà, maintenant, la souveraineté d'Hachem, je vais me l'imposer. C'est moi qui vais me l'imposer, sur moi. Je m'impose la souveraineté d'Hachem. Après, tu mets les tefilines. Les tefilines, tu dis, je soumets à Dieu mon cœur et mon esprit. Si t'as pas encore décollé, c'est que t'as pas fait les étapes. Là, avec toutes ces cavanotes. Là, j'ai même pas commencé Hodou, là. Hein. J'ai même pas commencé. Là, c'est juste, j'ai juste commencé la tefila, tu vois. On a juste mis le train sur les rails.
Sans 3, là. Hein.
Mais vous comprenez, est-ce que vous voyez les outils qu'on a entre les mains? C'est-à-dire, en tout cas, avant même que t'as commencé la tefila, Dieu, il t'a déjà donné les outils pour le servir comme il faut. Seulement, on les utilise pas, les outils. On va mettre un talit comme un châle. On va mettre des tefilines comme un objet. Et etc.
C'est dommage,
André. C'est bien sûr, c'est dommage.
Là-dessus.
Et donc, dit l'Admor HaZaken, maintenant, il dit peut-être qu'un juif, comme nous, il va faire tout ça. Ça veut dire qu'il va réfléchir avant la tefila, et il va mettre son talit en disant, je m'enveloppe de Dieu, j'accepte sur moi, je m'impose la souveraineté de Dieu, et il va soumettre son cœur, il va soumettre son esprit, il va essayer de le faire. Mais peut-être qu'avec toute cette réflexion qu'il a fait, peut-être qu'avec tout ça, il sent pas encore que dans son cœur, il sent Hachem. Ça veut dire comme ça. Là, je vais toucher un point très important. Il peut arriver parfois qu'on sent que tout ce qu'on est en train de parler maintenant, c'est des choses qui sont théoriques, ou pas seulement théoriques, mais qui sont abstraites. Ça veut dire, je donne un exemple. Imaginez par exemple que j'aime pas le coca. J'aime pas. Et que je vais me convaincre que le coca c'est bien. Je me convainc, on va m'expliquer qu'il y a des bienfaits, que c'est un médicament, on va me raconter des baratins. Bon, maintenant, je crois. Donc c'est-à-dire dans ma tête, je vais commencer à aimer le coca. Je vais l'aimer. On me dit, écoute, c'est pour ton bien, il y a un médicament pour toi dedans, c'est pour ton bien, et ça va te changer la vie, Bon, dans ma tête, je vais l'aimer. Mais est-ce que ça veut dire que parce que dans ma tête, je l'ai aimé, mon cœur va décoller? Pas forcément. On te dit, mais cette femme, elle est super pour toi, c'est ta femme, et c'est super, etc. Bon, dans sa tête, il aime. Mais dans son cœur, il n'aime pas. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est une question sérieuse que je pose. On peut avoir la même chose par rapport à Hachem. D'accord, tu m'as fait un cours de Tania, tu m'as expliqué, j'en ai plein dans la tête, c'est bon, j'ai compris. Maintenant, bon, j'ai compris, dans ma tête, j'ai compris qu'Hachem, c'est super. Mais dans mon cœur, ça n'a pas décollé. Dans mon cœur, bon, j'attends ce qu'il y aura après la tefila. Alors, je fais quoi? Est-ce que c'est abstrait tout ça? Est-ce que c'est du temps perdu tout ce que j'ai fait? Est-ce que c'est de l'illusion? Est-ce que c'est de l'autoconviction? Comment définir ça? Quand des fois, tu fais un effort pour essayer de développer quelque chose, pour essayer de te mettre dans un état d'esprit, mais tu sens qu'il n'y a que ta tête qui a été prise, c'est pas ton cœur. Alors, c'est bien ou c'est pas bien? Dis l'Admor HaZaken, il te dit la chose suivante. Il te dit, écoute, il y a un point très important. Il te dit, par rapport à Kadosh Baruch Hu, même si ça reste que intellectuel, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. C'est difficile à demander à un juif que d'emblée, dès qu'il se lève le matin, il va avoir un sentiment dans son cœur d'aimer Hachem comme il aurait aimé un plat, comme il aurait aimé une femme, et comme il aurait aimé des enfants.
C'est une intuition dans chaque juif.
Oui, mais c'est difficile à dire que cette intuition, elle va être aussi puissante au point que tu vas l'aimer dans ton cœur comme tu aimes un aliment, comme tu aimes un enfant, comme tu aimes une femme.
Là, c'est bien que c'est écrit. Là,
c'est dur. C'est pour ça que l'Admor HaZaken est obligé de parler, d'ouvrir cette parenthèse. D'ouvrir, pour nous rassurer. Pour nous dire, ne t'inquiète pas, il est possible que tout ce qu'on t'a dit, ça va rester que dans ta tête. et que tu vas sentir, tu vas dire, mais attends, mais est-ce que je suis pas en train de m'auto, comment on dit, auto-convaincre, on dit, ça veut dire, quand tu,
tu te rassures.
Non, c'est pas ça, c'est-à-dire, quand tu veux te faire croire des choses.
Mais tu te racontes une histoire.
Ah. Prends des pilules, ça ira plus vite.
Tu peux tout faire pour te faire aimer, si hein? Tu penses que t'es pas aimé. Tu peux fabriquer l'idée.
Donc on va créer un monde, voilà.
Alors, le père.
Alors un schizophrène.
Ça t'a des enfants, moi aussi. Moi, je leur dis, il faut faire ça et faire ça. Et les enfants, eux, dans leur tête, ça, ils veulent pas. Mais par contre, ils sont capables de se convaincre que ce que je veux leur faire, c'est bon. Mais sans aimer, vraiment. Donc, ils se mettent à le faire, mais sans aimer. On est tous plus ou moins passés par là. Tu vois.
Mais Joseph, est-ce que ça vous arrive d'aimer quelque chose dans la tête et pas dans le cœur?
Ça m'est arrivé.
Ça arrive très, c'est très fréquent.
C'est courant.
C'est très fréquent.
Mais c'est courant. De te rassurer.
Ça veut dire, on va te convaincre sur quelque chose. Dans ta tête, tu vas te convaincre.
Voilà.
Dans ta tête, tu vas être attiré vers la chose, mais ton cœur ne suit pas. Il ne suit pas ton cœur.
Voilà, c'est ça.
Alors, avec Dieu, ça arrive, ça aussi. C'est-à-dire que là, maintenant, on arrive. Bon, il y a le mois d'août qui arrive, mais après, il y a le mois d'Eloul.
Mais c'est tout le problème.
C'est quoi le mois d'Eloul? Qu'est-ce qu'on fait dans le mois d'Eloul? On se prépare. Bon, imaginez un bon juif. Il a fait tout un mois d'Eloul, les slichot et tout. Ça veut dire qu'il n'arrête pas de penser à ce qu'il a fait, à ce qu'il devrait faire, ce qu'il va faire, etc. Et bon, ça l'a pris. Mais il sent que le cœur, ça décolle pas. Le cœur, il reste bouché. Non, il a compris. C'est pas qu'il veut pas. Il est de bonne volonté, mais il fait pas. Dit l'Admor Hazaken. Très fort, ce qu'il va dire. Dit l'Admor Hazaken. Ve'azai, au milieu de la page 233. Ve'azai, à ce moment-là. Af im, s'il fait tout ce qu'on a dit. Af im bechol zot, lotipol alav et mavafarat bedgalut libo. Même si, avec toute cette méditation, dans les faits, aucune crainte et aucune peur de Dieu ne tombe dans son cœur de manière révélée. C'est exactement ce qu'on a dit. Ça veut dire que, dans sa tête, c'est parfait. Mais avec toute cette réflexion, il sent que c'est pas descendu dans son cœur. C'est pas descendu dans son cœur. Qu'est-ce qu'il fasse? Dis l'admor Hazaken, tu as fait ce que tu as pu. Mikol makom, quand même, néanmoins. Mais achar, shemé kabel alav malchut shamayim, étant donné qu'il a accepté sur la souveraineté d'Hachem, ou même shir alaviratou itbarech, et qu'il appelle sur lui la crainte de Dieu, beit galut marchav touretson no shemé mocho. Au moins, il a essayé d'accepter la souveraineté d'Hachem. Au moins, il a essayé d'avoir la crainte de Dieu dans sa tête. Et cette crainte, il a essayé de bien bien la développer dans sa tête. Qu'il a compris que c'est important, que c'est sérieux, faut prendre ça à la légère. Et là, il te dit l'admor Hazaken, très important. Ve kabalazo yamitit velo safek. Velo shum safek. Cette acceptation, le fait que j'ai accepté Dieu dans ma tête, c'est véridique, d'accord? Sans aucun doute. Parce que tu as une petite voix au fond de toi qui va te dire, mais est-ce que peut-être t'es pas en train de mitonner, là? Tu te fais croire que.
Mais ça, c'est quelque chose d'accord de permanent, presque.
Ça s'appelle l'autosuggestion. Ben oui. Le gars, il est là en train de se dire, j'ai vu Dieu, j'ai pensé Dieu, j'étais tata. Tout est dans sa tête. À un moment, il y a le petit doigt qui lui dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais, là? Est-ce que t'es pas en train de t'autosuggérer des choses? Tu fabules!
Ben oui.
Dis l'admor Hazaken, non, il fabule pas.
Ben non,
pourquoi?
On est contre.
Share, hi, teva, nafshot, kol Israël, shelo, limbra, de melech, akadash, baruchou. Tu sais pourquoi tu fabules pas? Parce qu'en vérité, au fond de toi, tu es déjà comme ça. Tu as déjà un amour vers Hachem. Tu as déjà une crainte vers Hachem. Si c'était pas le cas, si on ne l'avait pas au fond de nous, si au fond de nous, on n'aimait pas, on ne craignait pas Dieu, là, j'aurais pu dire que si une personne n'a pas réussi à faire ça dans son cœur, c'est très possible que ce qu'il pense dans sa tête, c'est du baratin. Il fabule, il simule. Il est en train de simuler. Mais étant donné que nous, on sait qu'un juif de naissance, il aime déjà Hachem, il a déjà la crainte d'Hachem. Donc en vérité, on te dit, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu as essayé de développer cet amour et cette crainte que tu avais vers Hachem. T'as pas réussi. Mais même si t'as pas réussi à le développer dans le cœur et que tu as réussi à le développer dans le cerveau, c'est pas simulé, c'est pas faux. Parce que ce que tu as développé dans le cerveau n'est qu'une expression de ce que tu as déjà dans le cœur. Donc, c'est pas un baratin. Donc, si tu as une petite pensée au fond de toi qui te dit, mais est-ce que je suis pas en train de simuler? Est-ce que je suis pas en train de m'y croire? On te dit non, tu n'y crois pas. Tu es dedans. Et je pense que ce message est très important. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois cette réflexion. Je suis sûr que si vous réfléchissez, cette réflexion vous arrive plusieurs fois. Réflexion. Tu dis, mais attends, si je sens pas dans mon cœur, alors quoi, je me convainc des choses dans ma tête. Bah, on peut se convaincre de ce qu'on veut dans sa tête. On peut se bourrer le crâne avec ce qu'on veut. Excusez-moi du terme. Seulement, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, c'est pas un bourrage de crâne. On te dit, tu es en train d'essayer de réfléchir à quelque chose que tu as déjà.
Tu l'as en toi.
Tu l'as déjà en toi. Donc c'est pas stimulé, donc c'est pas autosuggestion, donc c'est quelque chose de réel.
L'action de la Neshama, non?
Hmm?
L'action de la Neshama.
Ça, la Neshama, elle essaye de se développer au travers des sentiments du cœur. Mais des fois, bon, comme fois la personne, il a le cœur tellement bouché qu'on n'arrive pas.
Les deux.
Mais le problème, encore une fois, le problème, c'est que des fois, malheureusement, notre cœur, il est tellement bouché que ça passe pas. Ça passe pas. Il a tellement fait des bêtises, que bon, en tout cas, il n'a pas fini.
C'est ça l'attachement qu'on a qui fait que quoi qu'il arrive, c'est en nous.
Oui, justement. L'attachement fait que tu es attaché. Mais est-ce que tu ressens que tu es attaché? Alors on parle de sentiment.
Je le sais pas.
Là, on parle d'un bon juif qui a fait ce qu'il a pu. Il a mis son talit, il a mis cette filine, il a pensé, il a pris une demi-heure avant de commencer sa prière. Non, mais il sent que le cœur n'est pas là. Il n'a pas les frissons, là. Il sent que dans sa tête, il voit les grandeurs, d'accord? Mais il n'avait pas les frissons. Il n'a pas les sentiments.
Il a quelque chose, mais
alors on te dit c'est pas grave. On te dit c'est pas grave. Même si ce sentiment il est qu'intellectuel, c'est pas grave. Laisse-le intellectuellement et il va finir ensuite par aller progressivement dans le cœur. Il faut le laisser, c'est pas grave.
Ouais.
Il faut pas arriver à la conclusion de dire comme c'est pas descendu dans le cœur, donc ça veut dire que je me tue auto-suggéré. C'est faux. C'est quelque chose qui est réel. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.
Donc, les frissons, c'est bon. Hein.
Ah, mais c'est magnifique. Ah, si vous arrivez à avoir des frissons pour Dieu, c'est magnifique.
Concentrez bien,
il y a beaucoup de mises en condition.
À part quand il fait froid.
Moi, je vais vous dire que la vérité, des vrais frissons pour Dieu, c'est difficile d'en avoir. Même pendant l'année, là. C'est un état d'esprit, c'est un conditionnement, c'est très difficile. Avoir un vrai frissonnement du cœur pour Dieu, c'est très 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 difficile. Mais c'est pas grave.
Non, mais
on te jugera pas pour ça.
Mais se mettre en condition, c'est faisable.
Ça peut arriver.
Imaginez-vous que l'année, là, de Kippour, un jour, vous êtes bloqué. Vous ne pouvez pas venir à la synagogue, Dieu préserve. Vous la faites chez vous à la maison.
Ça sera pas pareil.
Est-ce que vous aurez les mêmes frissons que vous avez à la synagogue?
Non. Pas du tout. Si vraiment tu penses très...
Moi, je vous dis, pour moi, je réponds non.
Si t'as des frissons,
oui, bon.
Donc ça veut dire quoi? Ah! Alors c'est quoi ces frissons? C'est les frissons de mon âme ou les frissons du cœur?
Justement,
tu auras ça. Bon, c'est pas simple. Voilà. Imagine un juif qui est bloqué chez lui à la maison qui pourra. Est-ce qu'au moment de l'année là, il aura des frissons dans le cœur?
Non.
Je sais pas. Peut-être oui, mais non, j'ai pas essayé. Au Hachem. Vous comprenez, c'est des questions. Mais c'est pas grave. C'est des questions qu'il ne faut pas avoir peur de poser. C'est des questions. Ça ne nous dérange pas. Nous, on sait déjà, on se convainc dans la tête. Dans la tête, on est convaincu. Une fois que tu es convaincu dans la tête, après, petit à petit, ça viendra dans le cœur. T'inquiète pas. Même si dans le cœur, tu n'es pas arrivé, ça finira par venir. Mais tout démarre de la tête. Et avec le temps, ça finira par y arriver. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.
Là, juste une petite question, parce qu'en fait, à chaque fois que vous faites un cours, vous ouvrez des tirs ou des...
Ça part dans le... Il est ouvert et il s'en va.
Non, mais la notion
non.
De...
Ah non, on n'a rien laissé, là, qu'est-ce que vous voulez?
Non, mais la notion de roi, ça m'a interpellé quelque part.
Oui.
On dit que vous parliez que les rois, c'était des gens qui, finalement, qui faisaient le relais entre Dieu et le peuple, finalement.
Oui. Il devait être très très humble, extrêmement humble.
Alors, quelle est la différence entre un roi et un prophète? Et un prophète, par exemple, quelle est la différence entre le roi David et Moïse?
Pas la même fonction. Parce que le roi doit s'imposer, le roi il doit inspirer la crainte au peuple. Et la crainte qu'il inspire au peuple, c'est une crainte qui rappelle la crainte de Dieu. C'est comme ça que ça devrait se passer. Ça veut dire que le peuple a peur du roi. Et il s'imagine, en regardant le roi, que tu vois cette crainte que tu as, en vérité, c'est un symbole de la crainte qu'on a envers Hachem. Parce que lui représente Hachem.
Tu vas ouvrir?
Non.
C'est un niveau.
Il y a le crime de l'esprit.
Vous savez, il y a un chassid, lorsque le tsarisme a été effondré en URSS,
on est toujours chaud.
Il y a eu un chassid qui a pleuré dans un affaire Bringen. Pourquoi? Il a dit parce que avant, pourtant le tsarisme, on sait le mal que les femmes aux juifs, pourquoi elle a pleuré? Si elle pleurait, vous pourquoi elle a pleuré? Il a dit parce que avant, et jusqu'à aujourd'hui encore, aujourd'hui à son époque, lorsqu'on voulait expliquer à nos enfants ce que c'est Dieu, on avait un exemple. On dire, tu vois le roi, comment il terrorise, comment. Maintenant, imagine-toi le roi des rois des rois. T'as une image. Mais aujourd'hui, quelle image j'ai pour moi déjà et pour mes enfants, pour lui expliquer ce que c'est un roi?
Quand je parle avec des juifs marocains d'un certain âge, quand vous dites le roi du Maroc,
même ça. C'est pas un roi qui est. C'est ce que le roi il coupe des têtes, le roi. Le roi, c'est. Le roi, on n'ose même pas le regarder.
On n'ose pas trop le critiquer, quoi.
Non, ça c'est autre chose.
C'est-à-dire que le roi coupe la tête.
Hein? Coupe des têtes là-bas?
Non, il coupe la tête. On
a déjà
eu le roi.
C'est un bon roi.
Non, il les met en prison.
Vous savez que le roi du Maroc a eu plusieurs échanges de lettres avec le rabbi. Oui. Et lorsqu'il a perdu notre rabbi,
le père ou le fils,
les deux. Et lorsqu'il a perdu un enfant, je crois, un moment, il a perdu un enfant, je crois. Il y a eu le rabbi, il a envoyé une lettre. Je crois que c'est la seule personnalité politique qu'il a fait. Il a envoyé une lettre de condoléance.
Ah, mais c'est pour son frère.
Pour son frère, c'est ça. Il a perdu son frère. Il a envoyé une lettre de condoléance.
1983.
Une lettre de condoléance. Parce que c'est beau, c'est apparemment c'est quelqu'un de bien. Je sais même pas ce qu'il y avait dans les coulisses. Dans les coulisses, on sait même pas ce qu'il y avait. Hein? Oui, c'est quelqu'un de bien. Oui, c'est quelqu'un de bien. Bon, il y a des gens bien, bien sûr. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.
Il fait en sorte que les gens, ils aillent dans les temples que ça dit.
Oui, il a refait la Médina là aussi. Il paraît qu'il a fait un super beau, un super boulot à la Médina. Il a refait la Médina à Casablanca, c'est ça? Bon, allez, on s'arrête sur les rois juifs déjà.